Je vous en ai souvent fait la remarque. Continue le dimanche après Pentecôte en Orient. Ça n'a pas de rapport avec Noël, mais c'est comme ça. Nous n'avons pas le choix. Donc, je vais bien sûr vous parler de cet évangile de la femme courbée. Je veux rappeler que demain nous fêtons Saint-Nicolas.
Nicolas.
Alors Saint-Nicolas est le patron des enfants. Je dis juste un petit mot, parce qu'il y a des choses parfois étonnantes dans l'histoire de l'Église. Cet homme qui est de la fin du 4e siècle, du début du 4e siècle, et qui était évêque d'un petit évêché, Myre en Lycie, c'est le sud de l'Asie mineure actuelle, il est universellement connu. C'est le saint le plus populaire du monde, après la mère de Dieu et les apôtres. C'est quelque chose de tout à fait étonnant. Et quelle est sa caractéristique? C'était la charité, la bonté. Vous avez vu le Seigneur, la colère qu'il pique aujourd'hui contre la dureté de cœur des Juifs, parce qu'il vient de guérir une femme malade. Possédé. La charité. Vous avez entendu dans le beau Tropaire, maître de douceur, icône d'abstinence. Alors, sa vie est un peu compliquée parce qu'on pense qu'on a confondu deux Saint-Nicolas. Mais ce n'est pas tellement grave, si vous voulez. Il est très présent dans l'histoire humaine. Il accomplit beaucoup, beaucoup, beaucoup de miracles. C'est pour ça qu'il est patron de beaucoup de gens. Mais entre autres choses, il avait ressuscité trois enfants. Et donc, il est le patron des enfants. Il a aidé trois jeunes filles à se marier alors que le père voulait les prostituer par manque d'argent. Donc, il aide aussi les femmes et aussi les hommes qui voudraient bien se marier. Il a sauvé de très nombreux navigateurs dans les tempêtes, donc il est invoqué par les marins. Et très souvent, les chapelles en bordure de mer sont des chapelles dédiées à Saint-Nicolas. Et il est intervenu pour secourir des gens qui étaient injustement accusés. Et donc, il ne faut pas oublier de prier. Deux fois, il est intervenu pour trois personnes injustement accusées, puis trois officiers royaux de Constantin, de l'empereur Constantin. Et alors, il faut le prier aussi pour les gens justement accusés, et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'erreurs judiciaires, il y a beaucoup d'injustices sur terre. C'était un homme d'une exceptionnelle bonté et charité. Mais la tradition dit qu'il a participé au premier conseil œcuménique. Je suis plongé dedans. C'est pour ça que je me permets de vous le redire, en 325. Et on dit qu'il aurait giflé l'impie Arius. Alors ça c'est intéressant, parce que vous avez remarqué que la bonté du Christ va toujours de pair avec la vérité. Il dit toujours la vérité et il est bon. C'est une antinomie. C'est l'antinomie de la vie chrétienne. Mais nous pouvons dire que Saint-Nicolas, il a au fond accompli cela. Il était bon, mais sans oublier la vérité. Vous avez des gens qui sont arc-boutés sur la vérité, mais ils ont le cœur dur. Et d'autres qui sont très généreux, mais ils ne sont pas très regardants sur la vérité. Le Christ nous dit, faites les deux, parce que vous êtes mon image. Moi, je fais comme ça. Voilà un petit mot pour Saint-Nicolas. Et maintenant, ce bel évangile de la femme voûtée. Le Christ, le jour du sabbat, il va dans une synagogue et il parle. Vous avez vu que le Christ ne rejette pas la religion juive officielle. C'est la religion qu'il a lui-même inspirée à Moïse sur le mont Sinaï. C'est lui qui, par le Saint-Esprit, a donné tous ses préceptes à Moïse. Et il va prêcher dans le cadre du judaïsme officiel. Pas à part. Et le sabbat, c'était le principal jour de la semaine. Il va à la synagogue et il va pour parler. À la synagogue, qu'est-ce qu'on faisait? On chantait des psaumes, on lisait la Torah et les prophètes, et il y avait un rabbi qui ensuite commentait, un docteur de la loi. C'est ce qu'il fait. Et quand il va dans cette synagogue, dont on ne connaît pas le nom, on ne sait pas si c'est celle de Capharnaüm, mais enfin, c'est tout à fait possible, il voit une femme très gravement infirme. Alors vous savez, voûter, c'est pas se tenir comme ça.
C'est aller comme ça.
Elle ne peut pas se relever. Elle peut pas voir le ciel, elle ne peut pas voir le visage du prochain, elle ne peut pas voir le Christ. Il a immédiatement compassion. Et l'évangile nous précise, et le Christ va le dire, qu'elle est possédée. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant, parce que ça nous rappelle qu'il y a quand même toujours un rapport entre les maladies physiques, les souffrances physiques et la vie spirituelle. Soit ça peut être notre péché, soit ça peut être aussi les démons. Parce que tout le monde s'en moque maintenant. On était mardi à une réunion œcuménique ici même, sur le pardon. On a parlé de la chute de l'homme et du péché. J'ai été catastrophé par l'attitude de nos frères chrétiens, notamment des protestants, pour qui, au fond, l'homme n'est responsable de rien. Tout ça, c'est un mythe. Et au fond, le mal est en nous, donc c'est Dieu qui est l'auteur du mal. Moi, j'ai été catastrophé, peut-être pas les autres qui étaient là, mais j'ai été catastrophé. Et un pasteur luthérien a dit, ah oui, mais il dit le serpent, Satan, tout ça, il dit, ce sont des mythes, c'est pas une réalité. Mais vous avez ce qu'il dit le Seigneur, c'est Satan qui l'a tient enchaîné. On n'est pas dans le mythe, on est dans la réalité spirituelle. Le monde invisible est une réalité. Il y a une réalité puissante. Donc il faut savoir que ça existe, et ça a toujours existé. Ça existera jusqu'au retour de Christ en gloire. Satan la tient enchaînée. Évidemment, le diable prend beaucoup de plaisir à faire que cette femme soit ridicule, parce qu'il a la haine de l'homme, image de Dieu. Évidemment, quand vous êtes comme ça, vous êtes ridicule, visible, et vous ne pouvez pas regarder vers le ciel. Satan fait tout ce qu'il peut pour ne pas que l'homme regarde vers le ciel. La terre, tu es conscience, tu vas retourner à la terre. Tu n'es rien du tout, tu es de la boue. Et on ne peut pas non plus voir le regard de l'autre. On est dans la solitude. L'enfer, c'est la solitude. On ne peut pas voir le regard. On ne voit aucun regard dans l'enfer. On est tout seul. C'est un désert de solitude, l'enfer. Premièrement, le Christ va dans le cadre officiel de la religion juive. Il n'a pas fui ce cadre. Deuxièmement, il a immédiatement compassion. Vous avez vu, il ne lui a pas dit, est-ce que tu accomplis bien la loi? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu fais ceci, tout ça? Est-ce que tu paies la dîme? Rien. C'est une compassion spontanée de son cœur. De son cœur divino-humain. Il a pitié. Et il sait qu'elle ne peut rien faire. Parce que Satan la persécute. Tout de suite, il a galé. Vous avez remarqué qu'il accomplit ce qui est le prototype de nos sacrements. Il dit une parole et il fait un geste. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. On dit une parole et on fait un geste. Ma fille, tu es guérie. Il lui pose les mains. Il lui transmet la grâce divine. C'est ce que nous faisons. Les apôtres, les évêques et les prêtres. Ma fille, tu es guérie. Il lui pose les mains et elle est guérie. Elle se redresse tout de suite et chante la gloire de Dieu. Quelle merveille! On pourrait s'imaginer que tout le monde danse, tout le monde dit Alléluia, Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Rien. Chef de la synagogue, il engueule tout le monde. Vous vous rendez compte? Il a injuré les gens. Il dit, ouais, c'est honteux. Vous avez 6 jours pour travailler. Et vous venez vous faire guérir le Shabbat. C'est honteux. C'est indigne. Honte à l'humanité. Honte à nous. Honte à nous. Quand Dieu nous visite et qu'il nous fait du bien, on s'indigne. Et là, nous avons quelque chose d'extraordinaire. Je vais d'abord terminer sur le comportement du Christ et après peut-être essayer de faire une conclusion pour nous qui, au fond, qui peut nous servir aussi pour Noël parce qu'on va faire un lien avec Noël. Alors, le Christ, c'est une très belle réponse. C'est quelquefois, il dit des paroles, c'est comme un couperet. Hypocrite. Hypocrite. Vous faites semblant d'être des gens très pieux. Vous faites semblant de bien appliquer la loi de Moïse, vous donnez des leçons aux autres. Mais si vos animaux, le jour du sabbat, ils ont faim et soif, vous les déliez, vous ne vous en allez voir. Vous travaillez. Quand c'est votre intérêt, quand c'est votre avantage. Hypocrite. Et vous n'avez aucun souci des êtres humains, vous occupez des bêtes. On en prend pour notre grade, hein, les humains. Hein, jusqu'à la fin des temps, c'est pas seulement les juifs. Hypocrite. Dieu est l'hypocrisie. Et vous avez vu le bœuf et l'âne, comme c'est intéressant. On va aller vers Noël. Ça tombe comme ça, c'est le calendrier byzantin. C'est intéressant. Le bœuf et l'âne qui représentent les deux peuples, le peuple des gentils et le peuple juif. Hypocrite. Vous avez pitié des animaux et vous n'avez pas pitié de ceux qui sont l'image de Dieu. Évidemment, toute la foule est dans la joie. On va revenir une seconde à cet aspect des choses qui est important. Le Christ nous indique aujourd'hui, dans cet événement, dans cette circonstance, dans cette guérison, dans cet exorcisme, le vrai sens du sabbat. Le sabbat, ce n'était pas ne rien faire. C'était ne faire que pour Dieu. C'est pas ne rien faire. C'est n'accomplir que des œuvres spirituelles. C'est ne se préoccuper que de Dieu. C'est l'ancêtre du dimanche. Le Seigneur, il dit, je te laisse 6 jours, occupe-toi du cosmos. Mais 7e, occupe-toi de moi. Je t'aime, occupe-toi de moi. J'ai besoin que tu m'aimes. On va très loin en disant cela. Mais il dit, prends soin de moi comme je prends soin de toi. Ouais. C'est ça que ça veut dire le sabbat. Le sabbat, ce n'est pas ne rien faire. Alors, les juifs de la religion officielle appliquent bêtement à la lettre. Je ne fais rien, je ne bouge pas, j'ai droit à ceci, j'ai pas droit à cela. Le Christ, il nous enseigne la religion intérieure, il dit, ne soyez pas stupides, ne pratiquez pas bêtement extérieurement, ce n'est pas cela la religion. Religion, religare, c'est être relié à Dieu. Reliez-vous à Dieu. N'ayez qu'une préoccupation du sabbat, Dieu. Et ça m'a rappelé, ce passage de l'Évangile me rappelle ce qu'on lit en Occident les premiers jours du carême, les 3 premiers jours décembre. Il y a de très beaux passages du prophète Joël et du prophète Isaïe. Et le Seigneur, il dit, le jeûne que j'aime, c'est, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs, libérez les prisonniers, ayez pitié de ceux qui souffrent, donnez à manger et à boire. C'est le jeûne que j'aime, dit le Seigneur. Alors le jour du sabbat, bien sûr qu'on peut faire du bien aux autres. C'est le jour du sabbat que le Christ a fait du bien à toute l'humanité, il nous a guéri de la mort et du péché, le grand sabbat divin, le samedi saint. Il faut comprendre intelligemment la religion, spirituellement, ne pas être bête. J'applique ceci, je fais cela. Mais tout ça ne peut me servir à rien. Saint Paul y dit, vous pouvez même être brûlé, ressuscité des morts. Mais si vous n'avez pas en vous l'amour, c'est rien, c'est pipeau. La religion, c'est intérieur. C'est mon cœur face à Dieu. Alors là, le Seigneur est très, très dur avec son peuple. Très dur avec le clergé de son peuple. Mais ça vaut pour nous. On doit le prendre pour nous. Parce que souvent, on applique aussi de façon très formelle la religion. Il faut faire ceci, c'est le carême, j'ai droit à ceci, j'ai pas... Mais Dieu, il est où là-dedans? Il est où le Seigneur? Alors bien sûr que les ascèses extérieures peuvent être extrêmement utiles, mais elles ne sont pas le but. Le but, c'est le changement de mon cœur, le retournement de mon être, le repentir. Mais ça, ça ne viendra pas obligatoirement d'une multitude d'ascèses extérieures. Ça viendra de l'ascèse intérieure. Donc on revient aussi au carême de Noël. L'ascèse intérieure. Qu'est-ce que je peux changer de moi pour être agréable à Dieu? Et je termine sur Noël. Parce qu'il y a toujours un lien dans l'Évangile avec ce qui est le centre. Ces mêmes juifs qui ont crié contre le Seigneur parce qu'il a guéri une femme le jour du sabbat, au lieu d'exploser de joie, ils ne viendront pas à Bethléem. Ils ne viendront pas. Ça ne les concerne pas. Qu'est-ce que c'est que ces semi-clochards là qui s'arrivent comme ça, on est en pleine fête, on est en train de fêter Hanouka, on a d'autres choses à faire. Nous, on est des gens religieux. Et ils étaient tellement religieux, ils n'ont pas vu celui qui est la source et le but de la religion. Ils n'ont pas vu le Fils de Dieu. Parce que ça n'était pas conforme à leurs pensées, leurs habitudes mentales, leur confort spirituel, confort religieux, ce n'est pas spirituel, confort religieux. Mais c'est à ça qu'il faut mourir. Il faut briser ces machins-là en nous. Pas de confort religieux, pas d'habitude, mais mon rapport personnel avec Dieu. Et si nous ne faisons pas cela, le petit enfant en a crèche, on ne le verra pas. On ne verra pas que c'est lui le Fils de Dieu. Parce qu'il est venu par des voies qui n'étaient pas les nôtres. Alors, si nous, nous restons dans nos schémas intérieurs, mais on ne voit pas venir Dieu à nous. Et si on ne voit pas Dieu passer dans notre vie, on rate sa vie. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles.
Amen.